Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle l'éternel féminin, la féminité.
Simone de Beauvoir disait « compétence et intelligence, deux mots sans sexe ». Elles sont au sommet du savoir et pourtant les femmes ont toujours du mal à le faire savoir. Manque d'audace, de confiance en soi, sentiment d'illégitimité et parfois, il faut bien l'avouer, femmes oubliées. Je m'appelle Christelle Chiroux et je me bats pour aller les chercher. Elles sont scientifiques, médecins, économistes, sportives, avocates ou historiennes. Elles sont là et bien là. Elles ont des parcours impressionnants et passionnants. J'ai décidé dans ce podcast d'amplifier leur voix. À les écouter, vous ne pourrez plus les oublier. Bienvenue dans Expertes à la Une.
Bonjour, enchantée.
Enchantée. Je vois que nous sommes perdus.
Oui, tout vous à fait. C'est trop grand. On ne sait pas exactement par quelle entrée arriver, en fait.
Bah, moi non plus. Donc vous êtes avec vos valises, là. Votre café, vos provisions.
Les provisions parce que les restos sont fermés. Et parce qu'il y a des bonnes choses, non? J'ai du chocolat, j'ai des petites tisanes bio. Et... j'ai des pommes, des bananes. Si vous avez faim, vous n'hésitez pas.
Mais vous arrivez d'où, là, directement du sud?
Non, alors on a fait une transition par Lyon, où j'ai ma famille qui est là-bas. Et c'est là où on change nos bagages entre deux voyages, en général, parce qu'on n'a pas de chez nous officiel.
Un couple de champions du monde de chute libre en période de pandémie se repère de loin. Seul, au milieu du parvis de la Cité des sciences de la Villette, je ne pouvais pas me tromper. Karine Joly et son compagnon Grégory Crozier sont entre deux avions quelques jours à Paris. Temps partagé avec des rencontres avec les journalistes et entraînement dans la soufflerie de 18 mètres de la Villette pour pratiquer leur sport favori, le free fly.
Karine Joly, alors merci de m'accueillir ici sur votre lieu d'entraînement à Paris, dans cette soufflerie de la Villette. J'ai la chance de vous retrouver dans la capitale, là où vous êtes quand même très rarement, parce que vous êtes une athlète de haut niveau, de chute libre. Vous êtes donc une experte. Et c'est quoi la définition d'une experte pour vous, Karine Joly?
Ah, c'est une bonne question. Merci à vous d'être venue déjà. Me rencontrer ici. Une experte, je pense que c'est un grand mot pour signifier quelqu'un qui essaye de pousser un petit peu le niveau dans son activité. Donc moi, j'ai choisi la chute libre, ou c'est la chute libre qui m'a choisi, je ne sais pas trop dans quel ordre. Mais, et du coup, c'est vrai que la passion fait que on a envie de voir jusqu'où on peut progresser. Et la force de ce sport, c'est qu'il n'y a pas de limite. En fait, même, il n'y a pas un moment où on atteint un niveau, on se dit, bon ben voilà, là j'ai fait le tour, je sais tout faire, au revoir. Donc, il y a toujours des progrès à faire, on n'est jamais arrivé en haut de l'escalier. Et c'est ça qui est chouette, c'est pour ça que c'est un sport qui me plaît, c'est qu'on est toujours en perpétuelle évolution. Donc, là ici, le centre dans lequel on est, là, qui permet de faire de la chute libre en indoor, c'est un des super outils pour continuer justement à pousser le niveau et à progresser en chute libre.
Alors, Karine Joly, vous êtes championne du monde, vous avez 39 ans, mais finalement, on ne vous connaît pas. Qui étiez-vous? Je crois que vous êtes née à Lyon, mais qui étiez-vous lorsque vous étiez une petite fille?
Alors, je suis effectivement née à Lyon. J'étais une petite fille plutôt calme. Je me suis un peu plus énervée après, mais j'étais passionnée par le dessin et tout ce qui était art à l'époque. J'aimais beaucoup le ski, j'aimais quand même beaucoup la vitesse déjà. On faisait beaucoup de ski avec mes parents et c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, cette sensation de glisse, cette sensation de vitesse et d'être au cœur de la nature. Donc je pense que j'ai retrouvé ça un petit peu plus tard dans le parachutisme. Et puis j'ai fait mes études d'architecture d'intérieur et de design sur Paris. Et suite à ça, j'ai décidé de me payer la formation pour apprendre à faire de la chute libre en solo.
Avant d'en arriver là, alors que faisaient vos parents? Est-ce que vous avez des frères, des sœurs? C'était quoi un peu votre vie de famille?
Alors ma vie de famille, on est une famille de quatre, donc j'ai un grand frère. qui a 3 ans plus que moi. Et mes deux parents étaient dans le corps médical. Donc, mon père était médecin généraliste, puis ensuite spécialisé en ostéopathie crânien et médecine du sport. Et ma mère, elle, était orthophoniste. Donc, on a grandi dans un cocon familial assez confortable, en fait. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir une belle enfance et d'être entourée d'amour. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidés, mon frère et moi, à être encouragés dans nos loisirs et ce qui nous plaisait, en fait.
Donc, des parents passionnés aussi de sport ?
Non, pas vraiment. Non, bizarrement. Non, et on allait courir au parc de la Tête d'Or, qui est le parc... Le parc vert de Lyon. On allait courir ensemble le dimanche. Je me souviens, c'était l'activité récurrente. Et on faisait beaucoup de ski ensemble, comme je vous l'ai dit avant. C'était vraiment une passion commune dans la famille. Donc, dès qu'on pouvait, on allait se faire des week-ends ou des semaines de ski.
Donc, vous faites vos études à Lyon, puis donc à Paris pour vos études d'architecture. Durant 5 ans, vous passez votre bac à Lyon. Vous obtenez un diplôme d'architecture ?
Oui, je suis diplômée de l'école Camondo. En architecture d'intérieur et design. Et suite à ça, je suis partie vivre au Brésil pendant 2 ans.
Pour exercer votre profession ?
Oui, pour faire un petit break aussi avec la ville, comme je vous en ai parlé un peu plus tôt. C'est vrai que moi, venant de Lyon, alors on n'était pas directement dans la ville à Lyon, et j'ai grandi entourée de nature. Donc c'est vrai que pour moi, c'était difficile d'arriver dans une ville aussi dense que Paris. Et j'avais besoin d'un break, de trouver du soleil et une nature généreuse. Et j'ai bien choisi en allant au Brésil.
Alors, le premier saut en parachute, vous le faites finalement assez tardivement ?
Oui, complètement. En fait, c'est ma marraine qui m'a offert un tandem, donc un saut accroché à un moniteur, pour mes 18 ans. Et quand je me suis posée de ce saut-là, c'était la révolution pour moi. Je me suis dit, mais c'est fou, il faut absolument que je refasse ça. Et je voulais me concentrer là-dessus. Moi, évidemment, avec l'euphorie du moment et puis l'adrénaline du premier saut, mes parents m'ont dit, oui, c'est bien, bah, tu fais tes études et puis tu feras ce que tu veux après. Donc finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes études et puis j'ai mis un petit peu d'argent de côté pour pouvoir me payer ma formation solo. Et j'ai pu faire ça assez tardivement, parce que j'ai attendu d'avoir 23 ans pour faire ma formation et apprendre à sauter seule.
Donc de 18 ans à 23 ans, les 5 ans dont vous avez eu besoin pour faire vos études.
Tout à fait.
Et alors, le jour où vous avez 23 ans, donc vous décidez de pratiquer ce sport, qui est plutôt d'ailleurs un sport de militaire plus qu'un loisir, le parachutisme.
Oui, c'est vrai qu'à la base, c'est issu du milieu militaire. Et ça s'est transformé en sportif assez tard, quelque part, par rapport à tous les autres sports. Mais en fait, ça connaît une progression et une évolution qui est assez folle. En très peu d'années, il y a eu énormément de progrès et d'ouverture. N'importe qui aujourd'hui qui a envie de pratiquer la chute libre peut trouver des centres en France. On est un des pays qui a le plus de centres, d'ailleurs. Je crois. Et c'est vrai que même si donc il y a quand même des espèces de séquelles, j'ai envie de dire, du monde militaire qui était assez masculin, du coup, il y a aujourd'hui de plus en plus de femmes qui se joignent à notre sport.
Seulement 15% de femmes pratiquent cette discipline.
Oui, c'est pas énorme, mais ça grandit. Et oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi, parce que je sais pas. Peut-être la mauvaise image que le parachutisme a encore. Je pense que nous, on essaie de travailler là-dessus, justement, en faisant passer le message que ça a tellement évolué et que c'est plus du tout un sport bourrin, j'ai envie de dire. c'est vraiment quelque chose qui a déjà plein de disciplines et qui est peu connu. C'est vrai que souvent, quand on parle de parachutisme, les gens s'affolent en disant « Oh là là, mais j'ai pas le courage, oh là là, mais c'est braver la mort ». Ben en fait, non. Aujourd'hui, avec le matériel qu'on a et tout l'encadrement qui va autour, c'est vraiment un loisir comme aller faire du cheval ou je ne sais pas, du vélo.
Ça, c'est vous qui le dites. Alors, d'ailleurs, il y a une différence entre, je pense, le parachutisme et puis la chute libre. C'est-à-dire qu'on peut sauter, ouvrir son parachute tout de suite, et puis vous, ce n'est pas ce que vous faites, finalement.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a quelques rares disciplines, quand même. La majorité font de la chute libre, mais il y a des disciplines où ils vont sortir de l'avion donc plus bas, en altitude. Donc, normalement, nous, pour la chute libre, on monte jusqu'à 4000 mètres. Et on ouvre notre parachute à 1000 mètres. Mais il y a aussi des disciplines où ils vont évoluer sous voile, on appelle ça, donc dès qu'on ouvre le parachute, où eux, ils vont monter jusqu'à 1500 mètres, sortir de l'avion et rapidement ouvrir leur parachute pour pouvoir soit exécuter des figures sous voile entre eux, ou soit travailler la précision d'atterrissage. Mais ça, c'est vraiment issu du militaire pour le coup, où il y a une cible et il faut aller poser le talon sur une petite pièce de monnaie. Donc, nous, en fait, notre discipline à nous, c'est artistique, c'est du free fly, du vol libre, littéralement, où on va aller explorer, en fait, les 3000 mètres de chute libre pour pouvoir évoluer en trois dimensions. Donc, on va se mettre la tête à l'envers, on va se mettre assis sur une chaise imaginaire, on va se déplacer à des vitesses folles. Et c'est ça qui me plaît, c'est qu'on défie complètement notre condition humaine, en fait, dans notre discipline.
Alors, vous pratiquez cette discipline avec votre compagnon, Grégory Crozier. Vous vous êtes rencontrés, j'imagine, sur un spot.
Tout à fait. On s'est rencontrés dans une drop zone à Lyon. Et puis, c'est sûr que ça aide d'avoir cette passion commune, parce que c'est tellement prenant que tous les week-ends où il fait beau, on a envie d'être dans un avion. Et c'est sûr que c'est génial de pouvoir partager ça avec son conjoint.
Et comment vous en êtes venus tous les deux à la compétition ? Qui est-ce qui a eu cette idée-là ?
On pratiquait tous les deux donc en loisir, et puis après donc notre couple s'est formé. Et c'est un soir en discutant un petit peu en refaisant le monde où moi je partageais ma philosophie de vie. Je lui disais j'essaye de vivre en suivant ce qui me tient à cœur et de faire en sorte de ne pas avoir de regrets. Et il est là-dessus, il me dit ouais, c'est pas mal, mais ben moi j'ai un regret, tu vois, j'ai jamais fait de compétition en chute libre, alors que tous les sports que j'ai pratiqués, je les ai poussés au niveau compétition. Et je lui dis on avait quoi ? On avait 26 ans à l'époque, et je lui dis c'est trop con, on est jeune encore, faut pas se mettre au placard si tôt, donc viens, on monte une équipe et puis on fait de la compétition, comme ça voilà, il y aura pas de regret. Donc on est parti là-dessus et puis on a monté notre petite équipe, on s'est trouvé un vidéoman puisque notre discipline, nous, c'est deux performeurs, donc deux personnes qu'on voit à l'écran et un vidéoman qui fait entièrement partie de l'équipe mais qu'on ne voit pas malheureusement puisqu'il est derrière la caméra. Et donc on a trouvé un copain et puis on a monté cette équipe-là et puis rapidement on s'est pris au jeu parce que s'entraîner, faire des sauts avec un but d'évolution, en fait, c'est hyper agréable. Parce que ça pousse un peu le niveau, on évolue ensemble, on apprend à se découvrir, à découvrir les autres à travers l'entraînement. Et donc ça nous plaisait beaucoup. Et puis finalement, il y a les résultats qui ont suivi assez rapidement derrière. Donc c'était encourageant. Et puis on n'a jamais lâché. Et puis voilà, jusqu'au sommet.
Alors 10 ans pour arriver à des titres de champion du monde avec votre équipe, Airwax. Comment arrive-t-on à devenir champion du monde ? C'est quoi, finalement, l'entraînement qui doit être un entraînement d'athlète de haut niveau, j'imagine ?
Alors, y a plusieurs réponses dans cette question. Alors déjà, c'est vrai que nous, il nous a fallu 10 ans pour arriver à ce titre parce qu'on a connu un parcours un peu chaotique. On a eu des déboires un peu avec notre fédération qui nous a un petit peu freinés dans notre progression. J'ai écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, sur les 10 ans de compétition, qui sortira bientôt. Donc, si vous voulez avoir tous les détails croustillants, ce sera là-dedans. Mais donc, on aurait pu devenir champion du monde, je pense, plus rapidement, si on avait eu le soutien de notre fédération dès le début, ce qui n'a pas été le cas. Et du coup, pour devenir champion du monde dans notre discipline, il faut énormément d'investissement sur tous les plans, donc sur le plan financier et sur le plan du planning, de l'emploi du temps, parce que ça demande beaucoup de patience. Il faut aller sur les centres de saut, se réserver des semaines entières pour sauter d'avion, sachant qu'on va peut-être des fois passer 3 jours au sol à cause d'une météo capricieuse ou d'un problème technique autre. Donc, c'est pas évident. C'est vrai qu'il faut s'armer de patience et puis avoir la, tous les trois la même motivation et ne pas perdre le nord, j'ai envie de dire.
J'imagine que comme quand on fait partie de la patrouille de France, on s'entraîne d'abord au sol avant une chute, parce qu'il y a une chorégraphie, c'est pas le hasard dans les airs ce que vous faites.
Oui, tout à fait. Donc, dans un premier temps, en fait, on va essayer de mettre sur papier les idées de la chorégraphie qu'on souhaite réaliser. Et ensuite, on va aller prendre les mouvements séparément et on va aller les essayer en l'air. Donc, si on peut les essayer dans une soufflerie, on va le faire. Mais sachant qu'on ne peut pas vraiment travailler tous les mouvements qu'on a envie de présenter dans le ciel en soufflerie, du fait qu'on soit bloqué par l'espace des vitres, en fait. Donc, la soufflerie, c'est un super outil qu'on utilise pour booster notre niveau personnel. Ce qui va nous permettre de réaliser nos figures plus facilement une fois qu'on sera dans le ciel, mais on ne peut pas mettre nos figures de ciel dans la soufflerie parce que ça prend trop de place et que là on se heurterait au vert. Donc oui, on fait une répétition une fois qu'on a cerné les figures qu'on voulait faire, qu'on les a essayées et qu'on sait qu'on peut les passer. En fait, après au sol, on se fait une répétition. Alors ça ressemble pas à grand chose hein, vu de l'extérieur, on nous voit bouger la tête parce qu'on ne peut pas se mettre évidemment la tête en l'envers hein, au sol. On n'est pas tous capables de marcher sur les mains. Et puis ensuite, donc on s'imagine un petit peu nos emplacements. On répète surtout le tempo qu'on va avoir à trois et les distances qu'on va avoir entre chacun. Et puis ensuite, on a cette espèce de projection mentale qui nous permet, pendant la montée d'avion, de se mettre en situation et qui est très utile d'ailleurs pour notre saut par la suite.
Donc c'est de la concentration, c'est de la performance, c'est aussi de la technique, c'est aussi de l'artistique, parce que ce qui va faire que vous êtes meilleur que les autres, j'imagine que c'est cette chorégraphie artistique qui va être plus sympathique à regarder que les autres. Et en plus, pour qu'on comprenne bien, ça dure peu de temps finalement, cette chorégraphie, 45 secondes, c'est ça?
Exactement, ouais, c'est très pertinente. C'est 45 secondes de chute libre notée. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on quitte l'avion, il y a un chronomètre qui se met en route pour les juges et la vidéo va s'arrêter net, donc va se mettre en pause au bout de 45 secondes. Donc, c'est à nous de bien connaître notre timing et de bien le respecter pour arriver à caler notre finale, notre figure finale, avant que l'écran se fige. Nous, après, en soi, on a à peu près entre 50 et 55 secondes de chute libre. Donc après ces 45 secondes, on a un petit appareil qu'on a glissé dans notre casque vers notre oreille qui va nous biper pour nous dire « Ok, c'est la fin du saut ». Et chacun va partir séparément dans son coin pour aller ouvrir son parachute sans risquer de collision entre nous. Donc nous, après, on a encore bien 5 secondes pour finir notre saut. Mais donc, il faut respecter ce timing-là. Et c'est vrai que c'est qu'en répétant qu'on va avoir cette horloge interne qui nous indique qu'on a bien tout le saut en entier.
On a envie de cerner un peu ce que vous ressentez durant cette chute libre. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ou est-ce que ça ne s'explique pas?
Alors, si, ça s'explique. Mais c'est vrai que je pense que chaque personne va vivre quelque chose de différent. Pour moi, alors il y a déjà juste le fait de sauter d'un avion en soi, et surtout les premières fois, où c'est des premières sensations très très fortes. Pour moi, c'était vraiment en fait quitter tout ce qu'on connaît. C'est vrai qu'on a grandi dans une société avec, on nous dit voilà, un avion c'est fait pour aller d'un point A à un point B ou pour transporter des choses. Et là, le fait de se dire bah moi je vais les quitter. Je vais quitter ce que je connais pour aller dans un endroit complètement inconnu qui est le ciel. Et c'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop à quoi s'attendre parce que bon, on a tous fait un petit peu des manèges dans les fêtes foraines et tout ça. Donc on s'attend un petit peu à un haut le cœur. Ou alors, si on a sauté d'un pont pour aller dans l'eau, par exemple, on s'attend un petit peu à ce vide qu'on a ressenti quand on se jette du pont. Et en fait, bah non. Dès qu'on sort de l'avion, on est surpris par une claque de vent qui est le vent relatif, en fait, on appelle ça le vent relatif, puisque l'avion, en fait, se déplace, lui, dans l'air, forcément. Donc, cette vitesse qu'il crée, on la ressent dès qu'on sort. Même si on n'a pas encore le vent vertical qui vient de la gravité et du fait qu'on va commencer à accélérer dans la masse d'air, eh ben, on a quand même ce vent-là qui nous prend dès la sortie d'avion. Et au final, du coup, on est tout le temps sur coussin d'air. Donc, et le coussin d'air est tellement fort que c'est quelque chose qui est palpable. C'est un peu comme un matelas invisible qu'on aurait sur tout le corps. Donc en fait, on n'est jamais vraiment dans ce truc de vide ou avec l'estomac qui remonte, où on a l'impression qu'on tombe dans rien du tout. On n'a pas cette sensation-là.
C'est comme si on flottait sur les nuages.
Oui, c'est un peu ça, avec la densité du nuage en fait. Vraiment, on sent qu'on est sur quelque chose de palpable. Souvent, je prends la comparaison, si vous allez sur l'autoroute, loin des radars, vous allez très vite, parce qu'on est sur du 200 km/h minimum quand on chute. Donc, imaginez que vous ameniez votre voiture à 200 km/h, vous baissez la fenêtre et vous sortez le bras par la fenêtre. Imaginez la résistance que vous auriez sur votre main et sur tout votre bras pour pouvoir le garder là où vous le voulez, en fait. Et ben, c'est ça qu'on a, nous, sur tout le corps. Donc, c'est vraiment quelque chose de palpable.
Et c'est ce qui vous permet de faire ces mouvements tout en souplesse ?
Oui, alors ça paraît souple, mais ça l'est pas. En fait, ça demande énormément de gainage, le free fly. Il va falloir qu'on tienne notre corps justement pour pas que le vent bouge notre bras à la manière d'un pantin ou notre jambe. Donc c'est beaucoup de gainage pour maintenir les postures qu'on souhaite. Et par contre, c'est vrai que le moindre mouvement peut influencer un déplacement ou freiner, ou donc ralentir notre chute ou l'accélérer, ou se déplacer, ou tourner, ou envoyer des loupes.
Quelle est la posture dont vous êtes le plus fier ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'il y a une chorégraphie qui a un nom ? Est-ce que vous essayez d'imiter des choses ?
Alors oui, c'est une bonne question. C'est vrai que quand on commence la compétition, on va s'inspirer un petit peu de ce qui a été fait, puisqu'on n'a pas tellement d'idées propres au départ, je pense un peu comme dans tous les sports. Donc on s'inspire de ceux qui ont tracé le chemin avant nous. On essaie dans un premier temps de reproduire les figures qu'on voit. Et puis ensuite, quand on arrive à plus de techniques, on essaye de se dire « Ok, maintenant, on va se mettre un challenge. Qu'est-ce qui n'a pas encore été vu ? Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait... dompter en fait comme posture dans le vent. Et il y a une figure effectivement dont on est fier, qui est devenue notre figure emblématique. C'est celle qu'on a présentée au championnat du monde en Australie. Et c'est la première figure. Dès qu'on sort de l'avion, en fait, on envoie une espèce de roue qui termine où moi je suis à plat ventre avec la jambe tendue vers le bas. Et Greg est sur mon dos avec juste la tête en appui sur mon sac. Et donc, c'est très technique parce que lui, il est dans une figure qui demande que à accélérer puisqu'il est tête en bas. Donc, il n'y a pas beaucoup de surface présentée au vent, donc ça a envie d'accélérer. Et moi, je suis à plat ventre, donc j'ai beaucoup plus de surface présentée au vent et ça a envie de freiner. Donc, ce n'est pas des postures qu'on a habituellement l'habitude de voir ensemble et encore moins l'une sur l'autre puisqu'il est complètement dans ma dévente. C'est-à-dire que moi, je bloque le vent pour lui. Donc lui, il est complètement sur la tonicité et le gainage de son corps sur sa tête.
Est-ce que vous sentez son poids à ce moment-là ?
Ah oui, complètement, oui. Oui, je sens son poids. Alors moi, je dois gérer l'équilibre pour pas justement me faire pousser d'avant ou vers l'avant ou vers l'arrière. Il faut que je maintienne vraiment du poids sur l'avant pour rester à plat le plus possible et lui présenter un support qui soit stable pour lui également. Et lui, il doit gérer la bulle de dévente que je lui crée.
Donc on peut se faire mal dans le ciel.
Alors dans le ciel, pour se faire mal, il faut quand même y aller. Il faudrait s'impacter entre nous avec beaucoup de vitesse. Parce que quand on est les uns proches des autres, si on se touche ou si on vient se cogner, finalement, c'est pas très puissant, c'est pas très violent. Ce qui peut créer des dégâts, c'est s'il y a vraiment quelqu'un qui vient de beaucoup plus haut et qui descend en pointe, en flèche sur quelqu'un qui est plus bas et qui lui est dans une posture plus tranquille et qui viendrait le percuter. Donc oui, ça demande énormément de manque de maîtrise ou de manque, oui, de beaucoup de choses. En fait, entre nous, c'est quasiment impossible puisqu'on est toujours en visuel les uns sur les autres. Et puis, on maîtrise tous nos déplacements dans l'air. Donc, même si jamais il y a quelqu'un qui perdrait le contrôle, ce qui est assez improbable, on serait capable de l'éviter.
Oui, c'est une discipline quand même qui demande une certaine maîtrise en termes de sécurité. On ne peut pas s'improviser spécialiste de la chute libre comme ça.
Non, non, pas du tout. Ça vient vraiment par étapes. Quand on commence la chute libre, on apprend d'abord à dompter son corps juste pour rester stable dans l'air, donc pour ne pas se faire malmener par le vent. Et on va apprendre à sauter sur son ventre. Dans un premier temps, c'est maîtriser ça, arriver à tourner à droite, tourner à gauche, freiner, accélérer, avancer, reculer, et puis ouvrir son parachute en sécurité. Et une fois qu'on a maîtrisé cette posture-là de base, alors après, on peut s'amuser si on a envie. Hein. On peut aussi rester sur le ventre et puis partir dans la discipline du vol relatif où on va sauter à plusieurs et venir s'accrocher les bras et les jambes. C'est une discipline à part entière. Mais c'est vrai que sinon, on peut être tenté d'aller explorer plus la 3D et de se mettre un petit peu la tête dans tous les sens. Donc,
ça, c'est ce que vous faites.
C'est ce que je fais, voilà. Et donc après, la position de base du ventre, on va aller explorer un petit peu la chute assis, donc avec un petit peu de dos. Et la chute assis, c'est essayer de se mettre assis sur, comme s'il y avait une chaise imaginaire. Donc on est assis dans le ciel, comme ça, sur le coussin d'air. Et toujours en gainage, hein, évidemment, parce qu'on ne peut pas s'appuyer réellement sur quelque chose. Et donc c'est génial, ça, quand on arrive à ce premier stade, ou quand on est assis à plusieurs, comme ça, dans le ciel, avec des amis, et qu'on regarde le paysage, enfin, c'est quand même fou. Enfin, moi, c'est ça qui m'avait tout de suite plu, c'est d'arriver à être assis sur un fauteuil imaginaire avec des amis, et entouré d'un paysage complètement fou, complètement magnifique.
Il ne vous manque plus qu'une petite table avec une bouteille.
Tout à fait, voilà. Et puis, une fois qu'on a ça, ensuite, on va aller... Il y a tellement de positions possibles. Après, on a la position où on a la tête à l'envers et puis on peut se déplacer à des vitesses complètement folles. On peut se mettre en satellite autour de quelqu'un.
Ça donne pas mal à la tête ?
Non, ça donne pas mal à la tête.
Et est-ce que vous vous inspirez, par exemple, des chorégraphies du patinage artistique ?
Oui. Alors, on s'en inspire. Ça ne veut pas dire qu'on peut vraiment tout reproduire. Mais effectivement, le patinage artistique, pour moi, du moins, a été une bonne source d'inspiration, ainsi que les athlètes du Cirque du Soleil. Et également, je me suis pas mal inspirée pour le... Comment on appelle ça ? L'acro-yoga. C'est-à-dire que, vous savez, c'est une discipline assez récente où il y a quelqu'un qui fait office de support de base au sol et qui va venir monter quelqu'un en équilibre sur ses bras ou sur ses jambes. Et en fait, en faisant un petit peu le mélange de ces trois disciplines qui sont très artistiques et qui vont aussi chercher des mouvements un peu hors du commun, ça inspire du moins. Alors, sans reproduire exactement leur figure, ça inspire et ça donne des idées. Tiens, pourquoi pas essayer ça ? Tiens, c'est vrai, si on partait de ça et qu'on le développait pour arriver à ce que tu me tiennes le bras comme ça et qu'on fasse une fenêtre pour que notre vidéomane passe dedans. Et... Donc c'est chouette de pouvoir s'inspirer de tout ça.
Alors, cette discipline vous permet aussi de voyager énormément parce que vous allez chercher des endroits qui sont toujours plus magnifiques les uns que les autres. Donc, quels sont les plus beaux endroits dans lesquels vous avez pu faire ces chutes libres ?
Alors, ça, c'est génial. C'est vrai que je me souviens, moi, dans mes études de design, déjà, je bavais sur les photos de Yann Arthus-Bertrand, qui était un des premiers, finalement, à montrer...
La Terre fait du ciel,
ouais, tout à fait. Et c'est vrai que moi, je trouve ça absolument fantastique de découvrir des lieux, même des lieux qu'on connaît bien, mais qu'on connaît bien en tant que piéton, en tant que personne habitant sur la Terre. De voir ça vu du ciel, ça nous donne une toute autre perspective. Et on a eu la chance de découvrir des paysages complètement fous. Les plus beaux, alors on a eu Tahiti, on a un ami, un ancien vidéoman ami qui allait s'installer à Tahiti, qui a repris le Skydive Tahiti et qui nous a fait sauter au-dessus de Bora Bora et au-dessus de Moorea. Donc ça, c'était vraiment somptueux d'avoir ces... déjà, en soi, c'est magnifique. On arrive à Bora Bora, c'est somptueux. Mais alors, de prendre de la hauteur et de voir tous les dégradés de bleu avec la ceinture de la barrière de corail qui entoure l'île et puis les cassures de sable nettes qu'on voit avec différents turquoises, c'est complètement fou, quoi. On a envie d'arrêter le temps quand on est en l'air. On a eu... là où on a fait le championnat du monde en Australie, c'était sur la Gold Coast, à l'est, vers Brisbane. C'était magnifique aussi. On voit tous les bras de mer qui viennent s'engouffrer dans la végétation, avec la grande barrière de sable blanc qui longe toute la côte. C'était même difficile de rester concentré sur le saut, donc j'essayais de faire abstraction de ça. Suite au championnat du monde, on a eu l'occasion d'aller sauter au cœur de l'Australie sur Ayers Rock. Donc, ça aussi, c'était un privilège fou de voir le monolithe du ciel. Et puis, on a fait les pyramides d'Égypte. Ouais, ça aussi, je ne sais même pas comment c'est possible de sauter sur un site de l'UNESCO. Mais c'est un privilège fou de se retrouver.
Est-ce que vous avez le temps en 40 secondes ? Alors après, c'est vrai qu'il y a quand même la fin de la chute avec votre parachute, où là, ça va moins vite. Mais est-ce que vous avez le temps d'admirer, de profiter de tous ces paysages vus du ciel ?
Alors, on a le temps par la répétition des sauts. Souvent, en fait, quand on va sauter dans un endroit, on fait plusieurs sauts par jour. Et du coup, pendant la chute libre, on arrive à en avoir quelques bribes. Parce que c'est vrai que si on sautait juste à plat, on pourrait vraiment profiter pleinement du saut, enfin de la vue, pardon. Mais c'est vrai que nous, on profite plus du saut. Et en fait, ça joue, parce que même si on ne prend pas complètement le temps, on ne focalise pas notre attention sur le décor, il est là derrière les gens avec qui on saute ou derrière les figures qu'on fait. Et c'est quand même génial d'avoir ça en décor. Mais c'est vrai que, comme vous le dites, on en profite plus sous voile. Donc, une fois qu'on ouvre notre parachute, eh ben, on a ce moment de « waouh ! Ah ouais, c'est ça que je voyais derrière les gens, c'est ça que je voyais en arrière-fond. » Et on en prend plein la figure, et c'est un moment assez particulier, le sous-voile. Moi, j'aime beaucoup, parce que c'est un peu un moment de communion où on réalise tout ce qu'on vient de faire en chute libre, alors soit seul ou soit avec des amis, souvent c'est avec des amis. Et puis, on a ce moment où il n'y a plus le bruit de la chute, parce que ça fait du bruit, hein, du vent à plus de 200 km/h, mine de rien, même si on a des casques. Et donc là, c'est le moment qui est tout calme, où on est sous voile et on absorbe le paysage qui nous entoure, et on est dans une espèce de bulle de volupté qui est assez incroyable. C'est très poétique. Enfin, pour moi, c'est très poétique, ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a quand même le temps d'en profiter.
Vous avez fait combien de sauts jusqu'à présent ?
Alors là, j'en suis à 6500, 6400, quelque chose, très proche des 6500.
C'est beaucoup ?
Ça commence à être pas mal, ouais. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on commence la chute libre, on les compte, hein, un par un. Et c'est vrai que quand quelqu'un nous dit « ouais, j'ai 150 sauts », on fait « waouh, c'est 150 sauts, c'est génial, c'est incroyable ». Et puis quand on arrive à 150 sauts, on se rend compte qu'en fait, c'est rien du tout. et puis voilà, bah, j'espère franchir la barre des 10 000.
Et vous estimez qu'on est vraiment très très bon quand on en a fait combien ? Au bout de combien de sauts, on devient champion du monde ?
Ah, c'est pas vraiment, ça va pas vraiment avec un numéro. C'est pas un nombre de sauts qui va nous amener au haut niveau. En fait, c'est vraiment l'engouement qu'on va mettre dedans, et puis l'envie de progresser ou non. Il y a des gens qui font vraiment juste ça en loisir, qui ont un gros nombre de sauts, mais qui ne cherchent pas forcément de performance ou de progression personnelle, qui ont juste plaisir à se jeter d'un avion, parce que c'est une espèce de douche, en fait. Ça, on est tellement dans le moment présent quand on saute que ça nous sort de tout notre quotidien. Donc pour des gens qui ont un travail qui leur prend pas mal d'énergie ou qui leur fait travailler un peu les méninges, c'est vrai que se jeter d'un avion, ça fait du bien, ça balaye un petit peu la semaine de travail, ça fait penser à autre chose, c'est une grande bouffée d'air. Et donc, il y a des gens qui peuvent passer une vie à sauter en parachute sans chercher forcément à progresser ou avoir de la performance.
Alors vous, la performance, vous en avez, hein, 2 titres mondiaux, vainqueur de la Coupe du Monde, 16 médailles d'or, 30 compétitions, je dois en oublier.
Non, c'est ça. On a aussi les records du monde, où ça, c'est vraiment sympa parce qu'on se rejoint avec tous les parachutistes qui ont poussé aussi le sport à très haut niveau, même s'ils n'ont pas tous fait de la compétition. Et on se retrouve entre techniciens, j'ai envie de dire, et on essaye de battre les records du monde. Donc on va tous aller s'accrocher pour former une figure bien particulière où chacun a sa place et chacun doit venir contribuer à réaliser cette figure. Donc là, les dernières tentatives qu'on a faites, c'était on essayait de faire un record à 200 personnes. Donc c'est énorme, ces rassemblements-là. C'est une flotte de 9 avions qui volent en formation. Chacun se rejoint, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel on a beaucoup de plaisir à participer. Et la vue aussi est assez incroyable, puisque on sort de l'avion et on voit toutes les grappes de parachutistes qui sortent de chaque avion et qui viennent se rejoindre comme un essaim d'abeilles là autour de la base. Ça, c'est génial aussi à faire.
Est-ce que vous avez eu parfois peur quand même ? Parce que c'est très beau tout ce que vous nous décrivez, c'est super, on a envie d'être avec vous, mais en même temps, c'est pas rien ce que vous faites. Donc est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes fait peur quand même ?
Alors, en 6500 sauts, réellement, j'ai pas beaucoup eu de frayeur. des fois où il y a quelqu'un qui passe proche parce que justement il maîtrise pas et qu'on était en visuel focalisé sur autre chose et que d'un coup pouf on le voit passer dans le champ de vision à côté assez vite. Ça peut surprendre, ça peut faire peur.
Pour votre compagnon, pour le vidéoman qui est avec vous ?
Ah non, quand on est en compétition ou des sauts techniques dont je vous parle là, de record du monde, les gens maîtrisent trop pour que ce soit dangereux. En fait, ce n'est pas dangereux parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de maîtrise. Là où ça peut devenir dangereux, c'est quand on encadre des gens qui ont moins de niveau que nous et qu'on essaye justement de leur apprendre à mieux maîtriser leur corps dans l'air. Donc des fois, on est amené à emmener des groupes à évoluer ensemble. Et dans ces groupes, des fois, il y a quelqu'un qui va perdre son équilibre ou qui va lâcher son gainage et qui va du coup faire un peu comme un bouchon de champagne et remonter un peu vite. Donc il ne faut pas qu'il croise sur sa trajectoire quelqu'un. Et donc c'est plutôt dans ce genre de situation-là où on voit quelqu'un qui perd le contrôle. On se dit, oula, il n'est pas passé loin de quelqu'un d'autre. Donc ça peut faire des petits haut-le-cœur.
Et mais votre parachute, c'est toujours ouvert.
Oui, mon parachute c'est toujours ouvert. Heureusement, hein, je serais pas là pour en parler. Mais en fait, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que même s'il se passait quelque chose avec notre parachute principal, on a un parachute de secours qu'on peut déclencher nous-mêmes ou qui sera déclenché automatiquement par un appareil de sécurité électronique qui, si jamais par exemple on perdait connaissance à une certaine altitude, vers les 300 mètres, il va déployer tout seul le parachute de secours. Donc, quoi qu'il arrive, on aura une voile déployée au-dessus de nos têtes. Alors, c'est sûr que l'impact au sol sera plus violent parce qu'on n'aura pas les commandes en main pour freiner la voile, mais on aura quelque chose sur la tête.
Quels sont vos prochains objectifs, Karine Joly ?
Alors, quand on a atteint le titre ultime, c'est difficile. Soit on a envie de le perpétuer ou soit on a envie de passer à la suite. Pour moi, en fait, on a déjà eu une carrière assez grande, hein, 10 ans de compétition, c'est pas rien. Surtout, comme vous le verrez si vous êtes curieux dans mon livre, il y a eu quand même pas mal d'aventures et d'histoires pour en arriver là. Donc, on a eu vraiment ce moment d'apothéose. En plus, on a eu la chance que ça tombe en Australie, puisque les championnats du monde, en fait, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont tomber. C'est des appels d'offres que font différents pays. Pendant plusieurs années, c'était en Europe de l'Est. Nous, on a eu la chance d'aller à un championnat du monde à Chicago en 2016, où on a fait troisième, très proche des seconds. Et puis ensuite, c'est tombé sur l'Australie, où on a eu la médaille d'or là-bas. Donc, je veux dire, la consécration a été incroyable. Et du coup, j'ai plus envie, moi, de me focaliser sur transmettre la passion, transmettre le virus, le bon virus, cette fois-ci. Aux jeunes générations ou même faire découvrir le sport en fait aux gens qui n'ont pas l'idée que ça existe parce que c'est un sport qui au-delà des sensations qu'il peut amener dans la chute et dans sa pratique, c'est vraiment une communauté qui est magnifique. Comme vous l'avez dit, on voyage un petit peu de partout grâce à ça et c'est vrai qu'on découvre et on rencontre des gens du monde entier venant de milieux complètement différents, avec des métiers complètement différents. Et c'est vrai que ça offre un panel, une palette, en fait, d'êtres humains qui est génial. On vit des choses incroyables ensemble. Et c'est vrai que j'aurais jamais pu rencontrer ces gens-là en étant dans un travail normal, j'ai envie de dire, régulier, ou dans un bureau. Et c'est vrai que ça, c'est passionnant. C'est une communauté extraordinaire où ben on peut être soi-même loin des jugements et on peut partager des passions. Alors que ce soit le parachutisme ou autre chose, c'est quand même des gens assez intenses qu'on rencontre et c'est ça qui me plaît beaucoup.
Alors je vais revenir à une question plus pragmatique, mais qu'on se pose quand même, parce que c'est un sport qui coûte cher, parce qu'il faut trouver les avions pour faire tous les sauts. Donc comment vous arrivez à vivre, qui est-ce qui vous finance ? Est-ce que vous gagnez des prix ? Vous êtes deux, vous êtes en couple, même si vous êtes un peu sans logement, parce que toujours par mon et par vous, mais comment vous arrivez à en vivre ?
Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est un sport onéreux, parce que c'est de l'aéronautique, donc il y a toutes des infrastructures nécessaires à la pratique. Donc, il faut des avions, il faut un pilote, il faut une structure avec des gens qui travaillent dedans, il faut du matériel. Donc, c'est pas rien. Mais finalement, alors, la formation coûte à peu près, je crois, dans les 1500 euros pour arriver à sauter en solo. Alors oui, c'est sûr que c'est une somme, mais une fois qu'on est autonome et qu'on a fait la démarche d'acheter un parachute, on peut déjà trouver du matériel d'occasion. Et c'est vrai qu'après, on arrive à faire un saut en parachute pour une trentaine d'euros. Donc finalement, quand on voit tout ce qu'on fait et toutes les différentes étapes, la montée d'avion qui dure à peu près 15-20 minutes, plus donc avec tout le panorama qu'on a sur la montée, plus la chute libre, plus la partie sous-voile et toute l'intensité de ce qu'on vit, finalement, 30 euros, ben, c'est pas grand-chose. Moi, je prends souvent la comparaison. Il faut juste choisir où est-ce qu'on met son argent. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient « j'aimerais trop apprendre à sauter en parachute, mais ça coûte trop cher. » Et puis ces gens-là, en fait, allaient en boîte de nuit et dépensaient des fortunes en achetant des bouteilles.
Vous, avec votre compagnon, comment vous vous rémunérez ?
Aujourd'hui ?
Oui.
Alors aujourd'hui, donc, le fait qu'on soit professionnel, donc parachutiste professionnel, on peut être rémunéré en faisant des sauts de démonstration. On fait aussi pas mal de coaching en simulateur de vol. Donc on va emmener des gens, soit qui sont déjà parachutistes ou soit qui voudraient apprendre à maîtriser leur corps dans l'air, donc faire de la chute libre, mais en restant au sol. Hein, on a aussi des élèves qui n'ont jamais sauté d'avion. Et ces gens-là viennent faire des stages avec nous où on leur apprend un petit peu à maîtriser leur corps et on leur apprend à dompter des nouvelles postures dans l'air. Donc,
Vous arrivez à en vivre ?
On vit de notre passion. Alors c'est sûr que c'est vraiment un métier passion. Voilà, c'est pas, on fait pas ça pour l'argent, clairement. Mais on arrive à en vivre. C'est pas évident, mais c'est possible.
Et vous imaginez le jour où ça peut s'arrêter ?
Non, pas vraiment. Après, je pense que quand on est parachutiste, on apprend à retomber sur ses pattes. Donc, si jamais un jour ça devait s'arrêter, eh ben, on arriverait à se rénover et à faire quelque chose, à trouver quelque chose d'autre. Mais c'est vrai que non, moi je préfère penser que je pousserai ça jusqu'au max.
Vous avez un pied à terre ?
Oui, on est obligé de marcher avec nos deux jambes, donc j'ai deux pieds à terre. mais sinon, une attache fixe, non. Au niveau habitat, vous voulez dire ? Non, on est plutôt citoyens du monde, nous. On aime bien bouger, et c'est vrai qu'on arrive à faire notre chez-soi un peu de partout où on va.
Est-ce que vous envisagez de fonder une famille ?
Alors, on y a pensé à un moment, et puis c'est toujours un peu dans l'air. C'est une possibilité, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on était tellement dans cette quête du titre ultime que malheureusement, il n'y avait pas tellement la place. Hein. C'est très intense, les entraînements. On peut pas faire deux choses à la fois. Donc, à voir.
Et vos parents, alors, ils en pensent quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont peur pour vous, parfois ?
Alors, je pense qu'ils avaient très peur quand j'ai commencé la chute. Et puis, ma mère, un jour, a fait la démarche de me dire, OK, je suis OK pour faire un saut en tandem. Et je pense qu'elle a eu la curiosité de voir qu'est-ce que je vivais, en fait. Pourquoi est-ce que j'étais autant accro à ça ? Et elle a été curieuse de comprendre, en fait, qu'est-ce qui m'avait piqué. Et puis, quand elle a fait son saut en tandem, c'était génial. Je me souviens, dans l'avion, elle était complètement détendue. Et ça m'a surprise, du coup. Je disais, mais ça va ? Elle me disait, oui, ça va. Bon. Et je pense qu'elle avait fait la démarche d'accepter, peu importe ce qui allait se passer. Donc voilà, elle avait vraiment lâché prise. Donc, dans l'avion, elle était super relaxe. Et puis, en chute libre, elle était très consciente. J'étais en face d'elle, je lui faisais des signes, des sourires. Elle répondait à tous mes signes, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu dans un état second, et c'est vrai que certaines personnes, quand ils font un tandem, on peut remuer la main devant eux et le regard ne bougera pas, il sera vraiment dans le vide. Et c'était pas du tout le cas de ma mère, qui était très très communicative. Et quand on s'est posé, du coup, je me suis dit, c'est génial, elle a adoré. Donc je suis allée la voir, je dis, alors, ça t'a plu ? Moi, j'étais super enthousiaste. Et puis elle m'a dit, ouais, c'était sympa. Juste comme ça. Alors je l'ai regardée, je dis, mais comment ça qu'est-ce qu'il y a, quoi ? Et elle me dit, je sais pas, c'est juste ça. Et elle s'était tellement imaginée quelque chose d'horrible ou de, je sais pas, de... Je sais pas ce que c'était imaginé, mais je pense qu'elle s'était préparée à avoir très très peur, à avoir des sensations complètement à lui retourner l'estomac. Et comme elle a pas eu ça, en fait, elle a été surprise. Et elle m'a dit bah oui, c'est que ça. Et suite à ça, bah c'était quand je partais, il y avait plus de larmes aux yeux. Elle me disait plus au revoir comme si elle allait pas me revoir le soir. Et c'était vraiment ah bah amuse-toi bien, bon saut. Et puis ils nous ont encouragés. Alors après, mon père aussi a fait un tandem. Et c'était génial d'avoir leur soutien jusqu'au bout, quoi.
Est-ce que vous avez envie, Karine Joly, d'être un modèle pour les petites filles qui auraient envie, par exemple, de faire du parachute ou pas ?
Ah bah, complètement. C'est pas un but en soi, mais par contre, c'est un rôle que j'assumerais volontiers. Plus pour arriver... Alors, même si on ne pousse pas à haut niveau ou en compétition, ou même si on le fait juste pour essayer... Je trouve que ce sport, même si on fait juste la démarche de faire un saut, est génial parce que quand on va au-delà de sa peur, quand on va dans l'inconnu, en fait, on découvre énormément de choses sur soi, sur ses capacités. Et je pense que c'est très important juste pour développer la confiance en soi et pour développer aussi une relation où on va être un peu moins dur avec soi-même et on va apprendre à se découvrir, apprendre à s'aimer. Et ça, c'est quelque chose aussi que je développe pas mal dans mon bouquin, c'est que dans tout le parcours que j'ai fait, il y a eu plein d'étapes, et notamment quand on commence à s'entraîner, on est tout le temps à voir tout ce qu'on n'a pas encore réussi à maîtriser, au lieu de voir tout ce qu'on arrive à faire déjà. Et c'est vrai que c'est des démarches mentales, hein, d'arriver à apprendre à être un peu plus sympa avec soi-même. Et surtout chez les filles, je trouve qu'on est assez dur avec nous-mêmes. On a une exigence qui est très haute. Et on peut évoluer sans être dur avec soi-même, en fait. Et puis apprendre à se découvrir. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment passionnant de pousser un petit peu sa personne dans l'inconnu, parce qu'on va découvrir des belles choses, en fait.
Merci, Karine Joly, pour votre enthousiasme et Merci. Pour cet entretien.
Merci à vous.
Merci à David Führer pour la réalisation de ce podcast et à Laurent Cazot pour le mixage. Si vous avez apprécié ce podcast, surtout n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Le podcast Experte à la Une est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Je compte sur vous.